Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 30 septembre 2024 et voici une chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord, présentée par Jean-Louis. Alors je vais dans cette chronique aborder plusieurs sujets. Je vais commencer par revenir sur la partie de la déclaration du Comité général de la libre pensée qui concerne l'aspect international, l'action internationale et internationaliste de la libre pensée. Et je vais revenir également sur des initiatives qui sont prises au niveau international, notamment par rapport aux Mormons. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Et puis, autre élément important, un communiqué de la Fédération nationale de la libre pensée sur la Kanaky. Et puis enfin, par rapport au choix musical de ce jour, j'aurai quelques explications données, puisque, comme je l'ai déjà indiqué à ce micro, la revue trimestrielle de la libre pensée, l'idée libre, dans son dernier numéro, traite le sujet autour du blues, et nous allons, au fil de nos différentes chroniques, écouter les chansons qui sont évoquées au fil des articles de cette revue. Donc on va en reparler pendant plusieurs chroniques. Voilà. Alors, commençons donc par la dernière partie de la déclaration de la Fédération, du Comité général de la Fédération nationale de la libre pensée, qui s'est réunie le 14 septembre dernier, et donc dont j'avais lu les premiers éléments. Alors, l'action internationale et internationaliste de la libre pensée, contre la guerre et pour la paix. La libre pensée agit sur tous les terrains pour faire avancer l'avènement de ses idéaux pacifistes et internationalistes dans une volonté profondément unitaire. Comment ne pas constater que les très nombreux rassemblements pacifistes autour du 11 novembre ou autour d'autres événements sont de plus en plus unitaires? Et donc, petit aparté, nous verrons cela à l'occasion du 11 novembre 2024 où nous avons la tradition de rejoindre d'autres groupes et fédérations de libres penseurs à Gensu autour de ce merveilleux monument pacifiste en plein centre de Gensu. La question de la réhabilitation collective des 639 fusillés pour l'exemple de 1914-1918 est toujours présente dans nos actions. Selon la formule d'Horace, le procès est toujours devant le juge. Nous avons considérablement avancé. Plus de 2000 communes, 31 conseils départementaux, 6 conseils régionaux. L'Assemblée nationale elle-même ont pris position en ce sens. La collectivité territoriale de Corse a même réhabilité les fusillés originaires de l'île. Pour aller plus loin, pour relancer le processus parlementaire, Assemblée nationale et Sénat, il nous faut voir avec les groupes parlementaires favorables quand la situation le permettra. Il ne faut rien faire qui annulerait la victoire du vote au Palais Bourbon. Nous sommes donc dans l'attente d'une opportunité qui s'ouvre. En attendant, il faut 100 fois sur le métier remettre l'ouvrage, notamment en profitant de toutes les occasions possibles et aussi du 11 novembre. Je refais un petit aparté pour rappeler donc que la proposition de loi qui avait été présentée à l'Assemblée nationale par Bastien Lachaud, député LFI, avait été votée par l'Assemblée nationale et que c'est au niveau du Sénat que cette proposition a été rebloquée et que les aléas que nous avons connus depuis remettent évidemment en question le sujet. Donc, ce que je viens d'indiquer, c'est que, bien évidemment, nous ne lâchons pas sur cette question-là. Nous avons participé largement à de nombreuses initiatives contre la guerre en Ukraine en dénonçant parallèlement l'agression russe et la provocation de l'OTAN et des USA qui ont délibérément menti à la Russie sur les accords de Minsk, provoquant ainsi l'inévitable. Tous ont menti, tous ont provoqué, tous sont responsables. Dans le conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie, ce sont deux systèmes réactionnaires et deux contre-révolutions qui s'affrontent. La libre pensée continuera d'agir sur la ligne du cessez-le-feu et de la paix immédiate. La guerre, sa barbarie, ses massacres, ses milliers de morts ne seront jamais une solution pour régler les conflits entre les pays et les peuples. La libre pensée s'est fortement mobilisée contre le génocide en cours du peuple palestinien en participant aux nombreuses initiatives unitaires pour le dénoncer, préparées depuis des lustres par la volonté totalitaire, colonialiste, sanguinaire du sionisme d'en finir à tout jamais avec le peuple palestinien. Force est de constater l'horreur et l'absurdité de la situation. Les sionistes assassins traitent les Palestiniens d'animaux à exterminer, à l'instar des nazis qui disaient la même chose à propos des juifs dans les camps d'extermination entre 1942 et 1945. Autre ironie morbide s'il en fut. Les sionistes assassinent en masse pour voler la terre qui ne leur appartient pas aux Palestiniens à qui elle appartient. Et pourtant, les sionistes seront enterrés tôt ou tard dans la même terre qui sera celle des tombes palestiniennes. Quelle absurdité! La mort fera cohabiter tout le monde. On peut dire aujourd'hui du peuple palestinien ce que l'on disait des juifs naguère. Leur patrie n'est nulle part, leurs cimetières sont partout. La libre pensée appelle à un cessez-le-feu immédiat, partout en Palestine. Elle constate que les Israéliens sont de plus en plus nombreux à vouloir en finir avec Netanyahou, fauteur de guerre, et ses complices génocidaires. Pour une analyse plus approfondie, le comité général invite à lire attentivement la déclaration de la libre pensée à l'occasion de la journée internationale du 20 septembre. Je rappelle que je l'ai lue lors d'une chronique il y a, je crois, 15 jours. Donc la suite de cette partie sur l'action internationale et l'internationalisme de la libre pensée. Pour que justice soit rendue pour les victimes de l'Église, la libre pensée a accompli, notamment par le biais de l'AILP, l'Association internationale de la libre pensée, un travail considérable en ce sens. Notre ami et camarade Keith Porceous-Wood, de la NSS, la libre pensée anglaise, rapporteur général à l'ONU, a accompli une action décisive. La FNLP, par sa commission droit et laïcité et ses fédérations départementales, ont aussi accompli un travail important de recensement des biens de l'Église pour les réparations dues aux victimes. La richesse de l'Église est étalée maintenant aux yeux de tous, notamment grâce à une émission de France 2 à laquelle nous avons participé. La responsabilité du clergé ne peut plus être dissimulée, ni ses turpitudes. Grâce à la libre pensée, sur le plan national et international, plus rien ne sera comme avant. Encore un petit aparté, ces lignes ont été écrites donc avant que ne soit portée à la connaissance publique l'affaire de l'abbé Pierre. Le 9e congrès de l'Association internationale de la libre pensée. Il revient à la FNLP de l'organiser et d'en assurer le succès. Il se tiendra à Grenoble les 10 et 11 octobre 2025 et se conclura par une grande réunion publique à Lyon sur l'affaire Barbarin avec les associations des victimes de l'Église. Il y aura trois thèmes essentiels qui seront abordés lors de ce congrès. Les crimes de l'Église catholique, les 330 000 victimes de ses agissements en France et les millions dans le monde, un véritable tsunami de révélations emporte toutes les complicités des sacristies et menace de détruire le Vatican en tant que tel, tant ces institutions et ces structures nationales sont sur tous les continents. Keith Porceous-Wood fera un exposé de la situation. Les richesses de l'Église, pour faire juste droit aux réparations pour les victimes. Dominique Gousseau fera un exposé précis pour inciter toutes les associations de la libre pensée dans le monde et sur les 5 continents à procéder de la même manière que l'action entreprise par la FNLP, comme cela a déjà été fait en Allemagne par l'IBKA. IBKA, donc c'est l'organisation libre pensée allemande. La solidarité entre libre penseurs sur tous les continents. Xavier Hiver, président d'Entraide et Solidarité des Libres Penseurs de France, fera un exposé sur l'action de notre association de solidarité et ses résultats. L'idée est d'essayer de jeter les bases d'une association internationale de solidarité des libres penseurs dans le monde. Bien entendu, les associations des différents pays seront invitées à s'exprimer sur ces trois thèmes, au moins pour expliquer la situation de leurs pays respectifs et leurs actions diverses. Le comité général invite les fédérations départementales à s'associer à ce 9e congrès de l'AILP pour en assurer pleinement le rayonnement. Donc je rappelle, ça se tient dans 15 jours, dans moins de 15 jours, dans 15 jours et un an, les 10 et 11 octobre 2025. Voilà. Alors, je vous propose maintenant quelques autres informations concernant donc la diffusion des publications internationales. Donc, les différentes fédérations départementales ont les outils qui permettent de sensibiliser les libres penseurs pour les questions internationales. Par exemple, les actes du 8e congrès de Madrid de l'AILP sur la laïcité de l'enseignement et l'enseignement laïque dans le monde. Un regard international très intéressant sur ces questions. Donc, c'est un ouvrage d'ailleurs qui est vendu 12 euros et que vous pouvez bien évidemment vous procurer auprès du groupe Frézeler ou directement auprès de la Fédération nationale des libres pensées, à la librairie en particulier de la libre pensée. Autre document, les actes de la conférence internationale des 7 et 8 avril 2023. Cette conférence qui avait pour thème « Pour la séparation des églises, religions et des États, pour l'abrogation des concordats, pour la fin des privilèges, pour les religions ». Vous pouvez télécharger gratuitement cette brochure donc sur Calameo, c'est-à-dire en y accédant par le biais du site de la Fédération nationale de la libre pensée, fnlp.fr. A été adoptée notamment à cette conférence une déclaration internationale fort instructive qui est également téléchargeable sur nos sites. Voilà. Donc, j'en ai terminé donc avec ce document. Et je vais maintenant passer à un autre sujet, toujours finalement sur le plan des questions internationales. Je l'ai annoncé dans le sommaire de cette chronique. La Fédération nationale de la libre pensée s'adresse donc aux Mormons. Que se passe-t-il donc à ce sujet-là ? Ben, comme vous le savez, les Mormons ont pour habitude de récupérer des données pour baptiser finalement les différents citoyens du monde à leur insu pour les faire rentrer dans leur prétendue église. Alors, deux courriers ont été écrits. L'un aux dirigeants des Mormons et puis un autre donc à la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, puisque c'est le sujet qui est mis en cause par ces actions des Mormons. Donc, première lettre au président de l'Église des Mormons. Monsieur le Président, les libres penseurs du monde entier qui agissent en faveur de la séparation des États et des religions défendent la pleine liberté de conscience des individus et reconnaissent à chacun le droit de croire, de ne pas croire ou de changer de croyance. Ils considèrent que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, c'est l'appellation officielle des Mormons, est légitime à exercer publiquement le culte qu'elle juge conforme à ses choix théologiques dès lors que celui-ci reste étranger à la loi civile. En particulier, il ne lui dénie pas le droit de pratiquer le baptême pour les morts, en référence à la première lettre de Paul aux Corinthiens, citation, « Que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ?» Ni de croire à la famille éternelle forgée par le sacrement indestructible du mariage. Il ne conteste pas davantage à la société Family Search International celui de mener ses travaux. Néanmoins, l'accaparement par cette société de l'identité de toutes les personnes décédées dont il est possible de prendre connaissance semble intolérable à l'Association internationale de la libre pensée, AILP, puisqu'il a pour effet d'enrôler les athées, les agnostiques, les déistes, les libres penseurs ou les membres d'autres religions décédés dans la caravane des saints des derniers jours. Favorable par principe à la tenue des registres d'état civil par des autorités publiques, indépendantes des cultes. L'AILP combat toutes les pratiques de cette nature à travers le monde, notamment en Europe. Ainsi, elle a soutenu Thomas Borès, assujetti contre son gré à l'impôt d'église par la République fédérale d'Allemagne sur le fondement d'une attestation de baptême catholique, alors même qu'il avait répudié cette religion. De même, en France, de nombreux citoyens l'ayant quitté contestent à l'Église romaine la possibilité de conserver leur identité, même assortie de la mention « à renier son baptême » dans les registres de catholicité où ils ont été inscrits sans leur consentement durant leur minorité. Compte tenu de l'entrée en vigueur à l'échelle de l'Union européenne d'un règlement général sur la protection des données, l'un d'entre eux a récemment saisi la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg pour obtenir le droit de voir son nom effacé du registre. Par conséquent, bien que des représentants ou des institutions publiques d'État, même séparées des cultes, aient pu favoriser l'accès de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours au registre d'État civil archivé, tel pour la République française André Malraux en 1960, alors ministre de la Culture, ou plus récemment en 2013 la Commission nationale informatique et liberté, CNIL, nous vous demandons de limiter vos recherches aux personnes pratiquant et ayant pratiqué votre religion. Nous vous informons que la Fédération nationale de la libre pensée, FNLP, française, membre de l'AILP, va saisir la CNIL et le ministère de la Culture pour leur demander de dénoncer les accords de 1960 et 2013. Je vous prie, Monsieur le Président, de croire à l'assurance de notre considération. Christian Hachène, donc secrétaire général de la Libre Pensée. Et puis, donc, j'indiquais qu'il y avait un deuxième courrier, qui reprend un peu la même question, bien évidemment, qui est adressée à la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Madame Marie-Laure Denis. Madame la Présidente, l'Association internationale de la libre-pensée, ILP, dont la Fédération nationale de la libre-pensée, FNLP, est un des membres fondateurs, vient d'adresser une correspondance au président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour lui demander d'enjoindre à la société Family Search International, liée à ce culte, de cesser d'accaparer, citation, l'identité de toutes les personnes décédées dont il lui est possible de prendre connaissance, etc., dès lors que cela a pour effet d'enrôler les défunts athées, agnostiques, déistes, libre-penseurs ou membres d'autres religions dans la caravane des saints des derniers jours, au mépris du respect qui leur est dû et sans que leur famille le sache. Or, par une décision numéro 2013-105 du 25 avril 2013, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, a autorisé la société Family Search International, d'une part, à conserver, citation, des actes d'état civil et des documents de recensement dans les conditions décrites ci-dessus, en application de l'article 36, alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée, etc. D'autre part, à transférer, donc c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui a autorisé à transférer vers les États-Unis des données à caractère personnel dont les caractéristiques sont énoncées ci-dessus en application de l'article 69 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La CNIL a ainsi validé les accords conclus en 1960 et 1987 entre la République française, alors représentée par la Direction des Archives de France et l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. En l'espèce, le problème à résoudre n'est pas tant celui du correct traitement post-mortem des données d'état civil des personnes défuntes que celui de leur exploitation à des fins religieuses, même après le délai de 75 ans prévu au point E du quatrième article de numéroté 213-2 du Code du patrimoine. Si les archives publiques doivent demeurer consultables de plein droit, sous réserve des périodes pendant lesquelles elles sont inaccessibles, parfois dans des conditions d'ailleurs critiquables. Leur traitement par une religion selon les règles d'un dogme ou d'une croyance, même au travers des méthodes de la généalogie, devrait être interdit dans un État séparé depuis des cultes, sauf si les défunts en ont décidé autrement de leur vivant ou à défaut si leurs descendants l'acceptent. Sur point, la loi est muette et nécessiterait et mériterait d'être complétée. Imaginons Jean Jaurès ou le président Émile Combes faisant l'objet d'un baptême pour les morts et leurs proches d'une exploitation généalogique par la société Family Search International aux fins de sublimer leurs familles éternelles. À cet égard, notons par parenthèse que la question ici posée en rappelle une autre. Elle met en jeu la liberté de conscience, principe fondamental, reconnu par les lois de la République et l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, à laquelle porte également atteinte le maintien contre leur gré de l'identité des personnes vivantes ou décédées dans les registres de catholicité. Ce vide juridique n'est pourtant pas de nature à justifier le maintien de la décision de la CNIL du 25 avril 2013 pour deux raisons. D'une part, la finalité religieuse du traitement des données publiques d'état civil par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours n'est pas légitime au regard tant du respect dû aux défunts étrangers à ce culte qui procède à leur baptême sans leur consentement explicite que la séparation des Églises et de l'État. D'autre part, à notre connaissance, la société Family Search International ne satisfait pas, sauf erreur, à l'obligation, citation, d'informer de façon claire et pédagogique les personnes concernées par les archives traitées. Par suite, la FNLP demande à la CNIL, en sa qualité d'autorité administrative indépendante, de rapporter sa décision du 25 avril 2013. Je vous crie de croire, Madame la Présidente, à l'assurance de ma très haute considération. Et donc, c'est le Dominique Gousseau qui a signé cette lettre à la présidente de la CNIL. Voilà. Donc, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons dans d'autres chroniques parce que c'est une affaire à suivre et nous attendons les réponses tant de l'Église et de la société Family Search International que de la CNIL. Alors, restons sur les questions qui nous portent là maintenant en Kanaky, puisque c'était le terrain d'un certain nombre d'affrontements récents. Et le comportement colonialiste de l'État et du gouvernement doit être mis en cause. Donc j'ai un communiqué à vous lire, un communiqué qui est assez court. En métropole comme en Kanaky, le caractère autoritaire de la Ve République agonisante s'exprime pleinement. protégé par le bouclier des institutions à bout de souffle de la Ve République issue du coup d'État militaire du 13 mai 58 à Alger, le président Emmanuel Macron viole les principes les plus élémentaires de la démocratie pour se maintenir au pouvoir au bénéfice du capital financier en faveur duquel il dirige et appauvrit le pays. Il foule au pied la volonté du peuple français et intensifie la répression qu'il exerce sur celui de Kanaky. À la suite d'une défaite politique cuisante lors du scrutin du 9 juin 2024, au terme duquel ont été élus les 81 députés français au Parlement européen, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale où son parti de Goyot ne détenait plus qu'une faible majorité relative depuis 2022. Considéré comme la martingale susceptible de lui donner un second souffle, ce coup de poker l'a affaibli encore davantage qu'il ne l'était auparavant. À l'issue du second tour des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, contrairement aux prédictions des commentateurs, l'extrême droite a subi un revers cinglant. Il a pu accéder au gouvernement, tandis que le clan du président essuyait une nouvelle et sévère défaite, laissant le roi nu. Néanmoins, Emmanuel Macron a dupé le peuple français tel un vulgaire animateur de jeux de bonneteau en faisant siéger à l'Assemblée nationale, en violation de l'article 23 de la Constitution du 4 octobre 1958, les ministres démissionnaires ayant fraîchement sauvé leur circonscription de manière à faire réélire Mme Yaël Braun-Pivet comme présidente macroniste de la Chambre basse. Il a également refusé de nommer Mme Lucie Castet en qualité de première ministre, comme le proposait le nouveau Front populaire, NFP. La coalition, arrivée en tête du scrutin, est unie autour d'un programme de rupture. Après de longs atermoiements, il a désigné à sa place M. Michel Barnier, venu des rangs des Républicains, un parti qui a recueilli à peine 5% des voix et dispose d'un groupe de 47 députés sur 577. M. Michel Barnier a placé très rapidement ses pas dans ceux du président. Il vient de refuser de communiquer les lettres plafonds fixant les propositions de crédit des ministères pour 2025 à M. Éric Coquerel, président de la Commission des finances, et Charles de Courson, rapporteur général du budget. Il a ainsi bafoué un autre droit institutionnel. Bon, sur cette dernière question, les choses ont changé depuis la rédaction du communiqué, mais n'empêche que ces démarches étaient tout à fait justifiées de demander donc la communication des lettres plafonds. En Nouvelle-Calédonie, au prix d'un manquement à la parole donnée par le pays, le président Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur ont voulu procéder à une révision constitutionnelle visant à revenir sur celle de 2007 et à dénaturer ainsi l'accord de Nouméa de 1998. Celui-ci prévoit un gel du corps électoral de manière à permettre la poursuite du processus de décolonisation d'un territoire conquis par la force durant le Second Empire et faisant l'objet, depuis lors, d'un peuplement systématique du colonisateur. Ils ont ainsi entendu préserver les privilèges des colons. Cette trahison des assurances données au peuple kanak, il y a plus d'un quart de siècle, a entraîné un puissant mouvement de révolte à partir de mai 2024, qui a fait l'objet d'une forte répression, comme pendant l'insurrection de 1878, menée par Hatay, provoquée par les spoliations financières et soutenue par Louise Michel et Maxime Lisbonne. La révolte de 1917 ou la tuerie d'Ouvéa en 1988. Actuellement, 29 escadrons de gendarmerie, comprenant 6 000 hommes et dotés de véhicules blindés Centaure, quadrillent le territoire. 11 morts ont endeuillé le peuple kanak et 2 gendarmes sont décédés. 3 000 arrestations ont eu lieu et 7 prévenus ont été incarcérés dans les prisons de Blois, Bourges, Dijon, Mulhouse, Nevers, Yom, Villefranche, à des milliers de kilomètres de leurs familles et de leurs avocats. La répression a franchi un nouveau seuil en juillet dernier. La tribu milanésienne de Saint-Louis, qui compte, alors, tribu entre guillemets, qui compte 1500 habitants et se trouve englobée dans l'agglomération de Nouméa, est une prison à ciel ouvert. La circulation automobile y est interdite et personne ne peut y entrer ou en sortir sans l'aval des gendarmes, qui font un véritable siège à cette localité collectivement punie parce qu'elle est à la pointe du combat contre le colonisateur. Comme l'écrit le professeur des universités Antoine Leca, le haut-commissaire de la République, Louis Lefranc, et l'État ont fait le choix de rétablir outre-mer le principe de la responsabilité pénale collective aboli en France en 1789. En ces 171e et 66e anniversaires respectivement de l'invasion de la Kanaky par les troupes de Napoléon le Petit le 24 septembre 1853 et du plébiscite du 28 septembre 1958 validant la constitution bonapartiste du 4 octobre suivant, il est temps de rompre avec le régime autoritaire actuel pour une assemblée constituante souveraine, pour le droit à l'autodétermination du peuple kanak, pour la libération immédiate des militants emprisonnés. Voilà, nous en arrivons donc à la conclusion de cette chronique pour laquelle je vous propose d'écouter un choix musical issu du dernier numéro donc de l'Idée libre sur le thème autour du blues. Cette chanson, c'est Saint-Louis Blues et elle est chantée par Bessie Smith. S'il reste le temps, je vous en dirai deux mots après l'avoir écouté.
My man's got a heart like a rock cast in the sea. My man's got a heart like a rock cast in the sea.
Voilà, c'était un enregistrement de 1929, donc la qualité est liée à celle disponible à l'époque. Donc je reviendrai sur cette chanson dans la prochaine chronique et je vous donne rendez-vous donc lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller sur RLP. Merci à Antoine pour avoir assuré la partie technique de cette chronique. Au revoir.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouvez sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.